Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'émissions La Bonne Nouvelle aux musulmans. Nous allons donc étudier le sixième et le neuvième commandement. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Le sixième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Si nous regardons le premier chapitre de la Genèse, nous lisons que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et puis, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre ». Ces quelques lignes nous révèlent déjà que l'homme, aussi bien que la femme, reflète l'amour de Dieu, un amour trinaire, un amour qui donne et un amour qui reçoit, et qui, à son tour, rend l'amour reçu. Ce n'est donc pas une dynamique qui est repliée sur elle-même, mais qui est orientée vers le don de soi, qui est orientée vers l'autre. Hommes et femmes sont pourvus de la même dignité personnelle, cela est primordial. Ils sont absolument égaux en dignité et complémentaires en ce qui concerne leur nature respective. Dire que l'homme soit supérieur à la femme à cause de ses muscles, c'est absolument délirant. Hommes et femmes ont les mêmes capacités intellectuelles, mais ils diffèrent dans la réception du monde extérieur, dans la manière de percevoir les choses, parfois aussi dans la manière d'agir, de prendre des décisions, etc. Mais ce qui est incontestable, c'est que l'homme et la femme sont absolument égaux en valeur, l'un ne dominera pas l'autre. Contrairement à quelques maîtres à penser, qui veulent nous faire croire que l'identité sexuelle n'est qu'une question d'éducation, qu'on peut par conséquent choisir soi-même son orientation sexuelle, la Bible nous dit clairement que Dieu créa l'homme en tant qu'homme et femme. Il faut donc s'accepter en tant que garçon ou en tant que fille. Or, l'homme et la femme sont appelés à vivre en communauté, sanctifiés par le sacrement du mariage, dont nous parlerons plus tard. Cette communauté durera une vie entière, puisque cette union sacrée qu'est le mariage est le symbole même de l'alliance de Dieu avec son peuple. Osée, chapitre 2, verset 21. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Même si le peuple s'est maintes fois égaré, Dieu lui reste fidèle. Alors les époux aussi sont appelés à la fidélité, pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas aimer uniquement pour les bons moments ou à laisser. Ça, c'est pas de l'amour, mais de la pulsion, de la jouissance avide. En un mot, c'est de la débauche. Le vrai amour se révèle quand l'autre a besoin d'aide, quand il est malade, quand il va mal. Cela implique un entraînement à la fidélité bien avant le mariage. C'est pourquoi l'Église exhorte les gens à ne pas se lier inconsidérément, à ne pas avoir de rapports conjugaux futiles avant le mariage. Car l'acte sexuel avant le mariage, ou en dehors du mariage, est une grave offense à la dignité du sacrement du mariage. C'est le vice de la luxure qui est sévèrement stigmatisé par saint Paul, comme nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. L'Église nous recommande donc tant la chasteté. Mais qu'est-ce que c'est que la chasteté? La chasteté est un don de Dieu, un fruit de l'Esprit Saint. C'est la faculté d'intégrer cette force procréatrice qui est en chacun de nous et d'en faire seulement usage dans le cadre sacré du mariage. C'est aussi la capacité d'intégrer cette force procréatrice de façon à ce qu'elle devienne fructueuse symboliquement au service des autres. Et finalement, c'est l'intégration de cette force procréatrice au service de Dieu, comme la Sainte Vierge, qui était entièrement comblée du Saint-Esprit, de sorte que toutes ses facultés intellectuelles, physiques et psychiques étaient entièrement offertes à Dieu. Elle s'était totalement donnée à Dieu et au service du prochain. Car la chasteté est toujours orientée vers Dieu et vers l'autre, tandis que le vice est toujours concentré sur soi et son propre plaisir. La chasteté s'apprend graduellement en grandissant et débute par l'apprentissage de la maîtrise de soi dès le bas âge. Par exemple, l'enfant doit apprendre à renoncer à une nourriture qui lui ferait envie, par exemple un bonbon ou un chocolat, etc. C'est un apprentissage graduel de l'ascèse. Puis l'adolescent doit apprendre à maîtriser ses pulsions. Parfois cette lutte intérieure se traîne à travers toute une vie d'adulte. Quels sont les moyens qui nous aident à vivre la chasteté? Tout d'abord, il faut implorer constamment la grâce de Dieu pour qu'elle vienne à notre aide. Puis il y a les sacrements, surtout le sacrement de l'Eucharistie et celui de la pénitence, la prière, la pratique de l'ascèse, comme il nous est par exemple recommandé par le jeûne 2 fois par semaine, ou du moins le vendredi, puis l'exercice de vertus morales, surtout celle de la tempérance, qui nous apprend à guider nos passions par la raison. Puis, ce qui aide beaucoup, c'est tout simplement le travail. Une sérieuse activité physique ou intellectuelle, le fait de se méfier de toute oisiveté et surtout l'ascèse des yeux, comme dit saint José Escriva de Balaguer, qui nous met en garde contre toute image nocive et érotique telle que nous les présentent les pubs, les masses médias et certaines revues. De quelle manière tous les baptisés sont-ils appelés à vivre la chasteté? Tous les baptisés, suivant le Christ et la Sainte Vierge comme modèle parfait de chasteté, sont appelés à mener une vie chaste selon leur état de vie. Les prêtres, moines et religieuses vivent la chasteté dans le but de se consacrer entièrement au service de Dieu et aux autres sans partage. Les époux, en pratiquant la chasteté conjugale, et ceux qui ne sont pas mariés, vivent la chasteté dans la continence, cela veut dire dans l'abstinence de tout rapport sexuel. Tous les péchés contre la chasteté sont une grave offense à la sainteté de Dieu et à celle de l'autre. Ils sont l'expression du vice de la luxure, un manque total de maîtrise de soi et un manque total de respect envers la dignité de l'autre. Le 6e commandement ne condamne pas uniquement l'adultère, comme il est énoncé dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 14, mais il condamne également tous les autres péchés contre la chasteté, puisqu'ils sont une grave atteinte à la sainteté, comme la pornographie, la prostitution, le viol, l'inceste, l'homosexualité, etc. Nous lisons chez saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Nous devrions donc ressembler à un tabernacle habité par le Saint-Esprit et veiller à garder notre corps sans souillure. Est-ce qu'il est permis d'avoir plusieurs femmes à la fois? Il va de soi que le fait d'avoir plusieurs partenaires à la fois, la polygamie, est une grave offense à l'ordre du mariage établi par Dieu. Dans aucun passage du Nouveau Testament, il est permis d'avoir plusieurs femmes à la fois. Ce péché abaisse l'homme en dessous des bêtes, puisqu'il y a même des bêtes qui vivent en monogamie pendant toute leur vie. Nous parlerons du divorce quand nous parlerons du sacrement du mariage. En aucun cas Jésus a autorisé le divorce, ni le soi-disant remariage, qui n'est en fait qu'un concubinage stigmatisé par l'Église. Conférez par exemple le passage chez Matthieu, chapitre 19, verset 6. « Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. » Quels sont donc les biens de l'amour conjugal? L'amour conjugal, qui pour les baptisés est sanctifié par le sacrement du mariage, sont l'unité, la fidélité, l'indissolubilité et l'ouverture à la fécondité. Est-ce que l'Église catholique permet d'endiguer le nombre des enfants par des moyens contraceptifs? Nous lisons dans l'abrégé du catéchisme. La régulation des naissances, qui représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsable, est objectivement conforme à la morale quand elle se vit entre les époux sans contrainte extérieure, par exemple une contrainte exercée par l'État, ni par égoïsme, mais pour des motifs sérieux et par des méthodes conformes aux critères objectifs de moralité, à savoir par la continence périodique et le recours aux périodes infécondes. La méthode Billings, qui respecte les données de l'Église, est aussi sûre que la pilule contraceptive et a l'avantage de ne pas porter atteinte au corps de la femme, qui autrement subit toujours les séquelles de tout moyen contraceptif. De plus, la régulation naturelle des naissances est la seule méthode qui respecte l'ordre biologique établi et voulu par Dieu. Cette méthode respecte aussi pleinement la liberté et la dignité des époux. Ils sont d'ailleurs obligés de se respecter mutuellement et de pratiquer cette méthode ensemble. Pourquoi l'Église est-elle contre les moyens contraceptifs? Tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, ces moyens contraceptifs sont contre l'ordre voulu par Dieu, puis ils mettraient les époux à la merci l'un de l'autre. Surtout la femme serait continuellement disponible à assouvir les appétits sexuels de l'homme, ce qui est totalement contraire à sa dignité. D'ailleurs, par la révolution sexuelle causée par les moyens contraceptifs, les divorces ont augmenté, les familles ont éclaté, des millions de bébés ont été massacrés dans le sein de leur mère, les concepts de fidélité et de chasteté ne sont plus compris, voire refusés, parce que rétro. Des nations entières ont été dévergondées au point de mettre au rang de martyrs des jeunes qui s'efforcent d'observer strictement ce commandement. Et pourtant, Jésus nous dit dans les Béatitudes, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ce qui veut dire aussi que quelqu'un qui vit dans le vice ne fait que difficilement l'expérience de Dieu. D'ailleurs, il faut dire que le fait de s'adonner à ce vice de luxure et de volupté ne donne pas la satisfaction souhaitée. On ne trouve ni le bonheur désiré, ni la paix, ni la plénitude. Le cœur est inquiet et on vole plein d'ivresse de partenaire à partenaire comme un papillon, comme c'est le cas du personnage littéraire de Don Juan. Et pourtant, nous sommes assoiffés d'amour, puisque créés à l'image de Dieu, nous sommes orientés vers l'amour. Or, nous trouverons la plénitude, la paix seulement en suivant Jésus, qui par son Saint-Esprit nous conduit vers le Père qui est amour. Si nous suivons et imitons Jésus, nous deviendrons capables de nous donner à Dieu et aux autres. Sainte Madeleine et saint Augustin, qui ont tous les deux fait l'expérience de la guérison par Dieu, qui leur a redonné la chasteté, sont de beaux exemples que rien n'est impossible à Dieu et que de grands pécheurs peuvent devenir de grands saints. N'oublions pas ce que saint Augustin nous dit par expérience personnelle. inquietum cor nostrum, donne requiescat in te domine. Seigneur, notre cœur est inquiet, tant qu'il ne repose pas en toi. Que penser de l'insémination et la fécondation artificielle? Il faut dire que ces deux pratiques pour avoir des enfants sont gravement immorales, parce qu'ils séparent la procréation de l'acte par lequel les époux se donnent l'un à l'autre. C'est une domination de la technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. N'oublions pas que tout enfant est un don de Dieu, un vrai cadeau. Il n'existe pas un droit d'avoir des enfants à tout prix. Avoir recours à des fécondations artificielles comprend donc la tentation de vouloir se mettre à la place de Dieu, qui est maître de la vie et de la mort. Car n'oublions pas que toutes ces techniques produisent jusqu'à présent un surplus d'embryons dont les parents ne veulent souvent pas. Imaginez le sort de ces bébés, c'est effroyable. Nous touchons là de graves problèmes de bioéthique qui ne peuvent être résolus sans l'observance des commandements de Dieu. Les époux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, après avoir épuisé les recours légitimes de la médecine, peuvent soit adopter un enfant, et il y en a de pauvres orphelins qui attendent un foyer familial, soit qu'ils peuvent s'adonner à des œuvres caritatives, réalisant ainsi une précieuse fécondité spirituelle. En aucun cas, le fait de ne pas avoir d'enfant est une punition de Dieu. Dieu a appelé les époux à autre chose, et le pourquoi, nous le saurons seulement dans l'au-delà. Le 9e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Nous enchaînons par le 9e commandement parce qu'il est en étroite liaison avec le 6e commandement. Pourquoi? Parce que le 9e commandement nous demande de vaincre la concupiscence charnelle dans les pensées et les désirs. Ce commandement s'adresse naturellement aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est un combat qui peut durer toute une vie, et la reconnaissance de ce fait nous maintient dans l'humilité. Nous sommes donc constamment appelés à purifier notre cœur et à pratiquer la vertu de tempérance. Spirituellement parlant, nous sommes appelés à mettre en pratique les deux béatitudes, à savoir « heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » et « heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux ». Pourquoi ces deux béatitudes se recoupent? Car toutes les deux béatitudes nous appellent au détachement, pas uniquement au sens matériel, mais aussi au niveau des émotions, des sensations, des relations. Dieu nous demande de ne pas rester fixé sur tel ou tel objet ou personne, mais de tout lui donner. C'est lui qui purifiera tout et nous rendra de manière transfigurée tout ce que nous lui avons offert. Sainte Madeleine Sophie Barat, la fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, exhortait ses pupilles à tout offrir à Dieu, car il nous le rendra de façon transfigurée. Ne séduisez pas et ne vous laissez pas séduire. Celui qui s'en prend au jeu de la séduction, celui qui joue avec le feu, sera vite enflammé et il lui sera difficile de retrouver toute sa tête. Si une lecture, une image ou une personne vous inspire des pensées ou des désirs concernant les actes défendus par le 6e commandement, séparez-vous d'elle. Jésus nous dit clairement que le péché commence par le désir. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la gêne. Est-ce que cela signifie que je dois me crever un œil ou me couper la main? Mais surtout pas. Jésus nous parle en parabole. Mais s'arracher l'objet de ses désirs, de ses pensées et de son cœur équivaut bien à une torture corporelle. Parfois, nous avons l'impression de devoir mourir par un tel renoncement. Alors courage, Jésus vous aidera. Et c'est par cette mort spirituelle que vous serez transformé comme Dieu vous souhaite voir, pur et fort. Et si vous ne croyez pas pouvoir supporter la douleur du renoncement, offrez-la à Jésus. C'est avec votre effort de détachement que Jésus vous transformera, vous et votre entourage. N'oubliez pas que Jésus nous rappelle de porter notre croix si nous voulons le suivre. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. En acceptant de mourir vous-même, vous obtiendrez pas à pas le don de chasteté, la transparence du regard extérieur et intérieur, la discipline des sentiments et de l'imagination. Si vous implorez Jésus, la Sainte Vierge, les anges et tous les saints de vous aider dans ce combat spirituel tenace, vous serez sûrement exaucé et Jésus vous accordera la grâce d'être de plus en plus rempli de son Saint-Esprit. Vous deviendrez alors vraiment un être aimant tourné vers Dieu et vers les autres, puisque vous ne cherchez pas un bonheur futile procuré par un être fini, mais vous vous sentirez aimé par Dieu qui vous comble de plénitude, de paix et de bonheur. Pour finir, rappelons que ces deux commandements exigent d'urgence une purification du climat social, car de nos jours on fait tout pour détruire la pudeur chez les tout-petits déjà. Au nom d'une conception erronée de la liberté humaine, on détruit tout sentiment de pudeur qui protège l'intimité et la dignité de la personne. Dès le bas âge, les enfants sont plongés dans un néfaste climat d'érotisme ambiant. Mais les résultats de cette orientation perverse se manifestent de nos jours, comme nous avons vu plus haut. Alors empressons-nous de nous laisser transformer par Jésus, et ainsi notre entourage aussi sera changé. Terminons cette leçon par une prière de saint Alphonse Marie de Liguori, qui nous peut être d'un grand secours et que je vous recommande de réciter souvent, au moins tous les jours. Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Amen. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, la présente émission est terminée. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois, votre Véronique.